Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL. On plonge avec les requins. Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes photographe naturaliste, habitué des squales. Vous venez nous raconter une aventure, et là je pèse mes mots, extraordinaire. On commence par se situer, si vous voulez bien. Vous nous emmenez dans l'archipel de Tuamotu, c'est où ?
L'archipel d'Etuamotu, c'est un groupe d'îles, 80 îles, étendues sur une distance grande comme l'Europe, juste au nord de Tahiti. Ça fait partie de la Polynésie française.
Les fonds marins, ils sont, paraît-il, extraordinaires, et notamment dans le site où vous avez plongé, classé par l'UNESCO. Vous pouvez nous décrire l'environnement, ce que vous voyez quand vous plongez ?
C'est une zone protégée, donc effectivement, elle est extrêmement préservée. Et on plonge dans un chenal qu'on appelle une passe, qui relie l'océan Pacifique, le plus grand océan du monde, au lagon de l'atoll de Fakarava, qui est un des plus grands atolls du monde. Et ce petit passage entre les deux subit des pressions énormes avec les marées, et ça crée des flux nourriciers incroyables qui ont engendré cette abondance de vie.
Alors on imagine qu'on plonge avec vous, Laurent Balesta. Qu'est-ce qu'on voit quand on baisse la tête comme ça, sous nos pieds, dans notre masque, des requins ? Ils sont combien ?
Ils sont nombreux, on les a comptés la première année que nous sommes allés là-bas, et on a compté jusqu'à 705 requins au maximum de nos comptages. Ce qui en a fait d'ailleurs cette petite passe, le lieu où on trouve la plus grande concentration au monde de requins gris. Et ils ne sont pas là par hasard, bien sûr. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a une manne nourricière énorme, et en particulier chaque année au mois de juin, 18 000 mérous qui se rassemblent pour se reproduire.
Eh bien, vous allez nous raconter cette histoire. Vous avez promis que c'était extraordinaire. Promesse tenue, 700 requins réunis dans un chenal, dans une passe. Et donc, notre invité et d'autres plongeurs qui décident de plonger de nuit pour les filmer. C'est cette histoire qu'on vous offre tout de suite sur RTL.
RTL. 700 requins vivent au milieu du vaste Pacifique, autour d'une île invisible depuis l'espace, l'atoll de Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je les entends, ils arrivent.
Les premières secondes du film documentaire de notre invité, 700 requins dans la nuit, auquel vous avez participé, que vous avez réalisé avec Luc Marisco, Laurent Balesta. Vous êtes plongeur naturaliste, Laurent Balesta, pardon. Pourquoi plongez-vous de nuit ? Ça s'appelle 700 requins dans la nuit.
Parce que le jour, c'est un immense dortoir pour les requins, en tout cas. Ils sont immobiles dans le courant, ils se reposent dans le courant, d'ailleurs, un peu comme des oiseaux en formation dans le ciel, là. Ils sont presque immobiles. Et c'est uniquement la nuit qu'ils rentrent en action. Et on a découvert ça la première année, quand nous sommes allés là-bas en 2014. On n'y allait même pas pour les requins la première fois. On y allait pour ce rassemblement de mérous et cette ponte qui n'avait jamais été filmée encore. Donc j'avais cet espoir d'être le premier à filmer la ponte. Et quand on a plongé la nuit pour voir un peu ce que faisaient les mérous, on a découvert surtout cette horde de 700 requins qui essaient en tout cas de les dévorer chaque nuit.
Ils ressemblent à quoi, ces requins ? On a envie de vraiment s'imaginer avec vous. Ils sont très grands. Ils sont de quelle espèce ?
Alors c'est le requin gris de récif, Carcarinus amblyrhynchos pour les naturalistes. Et c'est un requin qui n'est pas énorme, qui les plus gros individus dépassent un petit peu 2 mètres parfois. On a toutes les classes d'âge d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de naissances qui se passent dans cette passe aussi. Mm-hmm. Donc on a des requins gris qui font 40 cm aussi. Et voilà, il y a toute une population, tout un énorme groupe, donc plus de 700, et qui sont là parce qu'en permanence des poissons arrivent. Parce que les poissons, on pourrait dire, mais pourquoi ils viennent là, dans une embuscade pareille ?
Parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a du poisson.
Oui, bien sûr, mais ils ont besoin en Polynésie de ces passes, de ces chenaux où le courant accélère tout et où le courant va disperser leurs œufs dans l'océan, à l'abri des prédateurs du récif. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent le risque quand même.
Ah, c'est d'abord
de venir
pour protéger la famille, en fait, c'est et leur reproduction.
Oui, c'est instinctif. Hein,
y a ça, pas vous parlez des mérous qui viennent pondre à cet endroit-là.
Hein. Les mérous sont solitaires le reste de l'année. Tout à coup, ils sont 18 000 sur un espace qui n'est pas plus grand que 2 terrains de foot. Donc on a l'impression d'être dans une immense cage d'aquaculture. Et ils se battent jour après jour, ces mérous, les uns et les autres. Il y a des guerres hiérarchiques, on veut garder une femelle que pour soi. Ça va durer 1, 2, presque 3 semaines jusqu'au jour où les femelles sont prêtes à pondre. Et là, tout est réglé en 30 minutes.
Alors vous allez nous raconter tout ça, on va rentrer dans les détails. Là, ce qu'on découvre, c'est une espèce de jeu. Alors j'ai parlé d'une expression terrienne, du chat et de la souris entre le requin et le mérou. On peut imaginer que ça fait des siècles et des siècles, peut-être plus que ça, des millénaires, que,
des
cette,
millions
passe,
d'années.
Ouais, que cette passe abrite ce combat entre mérous et requins.
S'il existe aujourd'hui, c'est qu'il existe depuis le début, hein, mmh. Et ces atolls ont 70 millions d'années, donc on peut imaginer que cette stratégie, qui peut paraître étrange, puisqu'on a l'impression que ces mérous viennent se jeter dans la gueule du loup, enfin du requin en l'occurrence, et ben, ça marche, sinon ils ne le feraient pas, sinon ils auraient disparu. Donc oui, il y a presque 300 kilos de mérous qui sont mangés chaque nuit. Donc il faut vraiment qu'ils soient nombreux. Et pour autant, ces pauvres requins ne les voyaient pas comme des machines ultra efficaces. La plupart d'entre eux ont quand même le ventre vide au petit matin. Mais voilà, les mérous viennent parce que c'est leur seule chance de voir leur progéniture avoir quelque chance de survie. Et ils font ça évidemment au risque de leur vie. Ils sont pas maîtres de leur destin. Ils sont esclaves de leur instinct.
Laurent Balesta, vous racontez cette histoire géniale dans un documentaire 700 requins dans la nuit qui sort le 5 février en DVD. On écoute un extrait sur vos premières manœuvres d'approche.
On n'osait pas s'approcher de cette meute. On restait au-dessus, 10 mètres au-dessus. On l'a filmé de loin. On était là, les genoux sous les épaules, tellement on craignait tout ce qui pouvait dépasser de mâchoire de cette meute rassemblée comme une boule de requin impénétrable.
Alors, Laurent Balesta, quand on commence à regarder votre film, évidemment, on arrive avec nos réflexes de terrien, nos clichés face aux requins nourris de films de catastrophes depuis des décennies. Et donc, on se dit, mais c'est de la dinguerie plongée au milieu de 700 requins. Est-ce qu'ils s'occupent de vous, tiens, déjà, ces requins ? Ou est-ce qu'ils vous ignorent ?
Est-ce qu'ils vous chassent ?
Non, nous aussi, on est arrivés avec, peut-être pas d'a priori, mais on a vite eu des appréhensions, ça c'est certain.
C'est bien.
Nous les premiers. Et on ne savait pas où était la limite du vrai danger. Et puis très vite, petit à petit, parce que la fascination prenait le dessus sur nos craintes, on s'est aperçu que nous n'étions pas des cibles. Mais malheureusement, nous étions souvent des obstacles sur leur course pendant leur chasse.
Ils vous bousculent alors.
Ah ben c'est terrible. Oui, oui, jusqu'à casser du matériel de prise de vue à plusieurs reprises, jusqu'à déchirer des combinaisons, jusqu'à même quelques points de suture d'ailleurs, une fois ou deux. Deux fois exactement en tout. Mais attention, sur 3000 heures de plongée. Donc, et il ne nous est rien arrivé. Donc pour moi, les images sont peut-être très impressionnantes de ces bousculades. Mais précisément, quand on voit à quel point on est malmené, et à quel point il nous est jamais rien arrivé, ça prouve bien que ces requins sont pas des espèces de bêtes sanguinaires qui se jettent sur tout ce qui bouge.
Mais vous faites comment, Laurent Balesta, pour les filmer concrètement ? Vous plongez avec quel matériel ? Vous placez comment ?
La première année, on était dans la sidération, on savait pas. La première année, on ne savait pas comment faire. Et on a vraiment eu, c'était passionnant d'ailleurs, d'inventer plein de systèmes de prise de vue, parce que ces scènes de chasse échappent à l'œil humain. Ça va trop vite. C'est d'une vitesse incroyable. Et donc, on a utilisé d'abord des caméras slow motion, des caméras ralenties. Je me souviens que la première année, faute de moyens, on a attendu qu'une caméra se libère de Roland Garros. Vous savez, la caméra qui filme la balle sur la ligne.
Oui, oui.
On a attendu que Roland Garros soit fini pour pouvoir la récupérer à moindre coût et partir la première année. Ensuite, on a eu plus de moyens. On a loué même pendant Roland Garros.
Vous avez même installé une arche.
Voilà,
c'est
après
ça,
on a l'arche d'image. Moi, je suis un fan de cinéma, de science-fiction en particulier, même si après mes documentaires, je les veux réalistes. Et Matrix, ça a toujours été une référence à mon. Et dans Matrix, il y avait l'effet Matrix, c'est-à-dire, souvenez-vous, ces scènes de combat où on fige une image de combat en pleine action, et pour autant, la caméra tourne autour de cette scène figée. Moi, ça m'a toujours bluffé, et je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec une scène animalière? Et c'est quelqu'un de l'équipe qui a eu l'idée de concevoir toute une arche, donc une arche 4 mètres de diamètre avec 32 caméras. Et après, la difficulté évidemment, c'est que c'est pas des comédiens les requins, donc il faut attendre que le hasard de toutes ces milliers d'heures passées sous l'eau, une scène se passe au milieu de l'arche.
Ouais, et vous avez même équipé certains requins en caméra et en puce électronique. Et là, on se dit, mais comment font-ils ? Réponse à venir sur RTL.
Je vois pas comment je pourrais te dire ça autrement. Tout ce qui bouge, tu le tues, tu le manges, point barre.
RTL.
Ça a toujours été comme ça chez nous. C'est une tradition chez les requins. Qu'est-ce que t'as dans le ventre ?
La curiosité est un vilain défaut.
Francky, tu vas prendre Lenny sous ton aileron et le mettre au parfum.
Oh papa, mais comment...
Fils, tu vas apprendre le métier de requin. Que ça te plaise ou non.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il y avait un requin chagrin.
Le requin chagrin, Michel Sardou et Mireille Darc. Et puis on a écouté un extrait de Gang de requins. C'est un dessin animé, vous l'avez vu ?
Mais oui, bien sûr. Et finalement, il était prémonitoire, puisque c'est exactement ce que nous raconte notre invité, Laurent Balesta.
Un groupe de requins, une meute de requins, c'est ce que nous raconte le naturaliste et plongeur Laurent Balesta. On plonge avec vous de nuit au milieu de 700 requins. On est auprès des îles des Tuamotu, on est en Polynésie. C'est vrai que nous, on avait l'image du requin un peu prédateur, solitaire. Elle est complètement fausse, cette image.
Non, elle n'est pas fausse. C'est un vrai prédateur. Après, ce qui est faux, c'est l'idée qu'on s'en fait de quelque chose de redoutablement efficace, d'une machine parfaite. Non, il a ses faiblesses. Et les proies, à l'inverse, il ne faut pas voir là un animal tout faible. Lui aussi, ça fait des millions d'années qu'il est là, qu'il survit. Et il est redoutable dans ses esquives et dans sa capacité à éviter le prédateur.
Et il a besoin des autres aussi, le requin.
C'est ça
qui est super
intéressant. Il y a de l'harmonie dans tout ça. On nous parle toujours de frénésie des requins. Mmh. Pour moi, la frénésie, c'est ce qui se passe, je sais pas moi, devant un magasin au moment des soldes. Ça, c'est de la frénésie, parce que ça n'a aucun avenir. Mais ce qu'on voit dans la passe, c'est de l'harmonie. Ça fait des millions d'années que ça existe.
Et cette harmonie, vous l'avez observée en plongeant Laurent Balesta, et vous avez vu notamment que ces requins faisaient des pas de deux. Ils fonctionnaient à deux, une sorte de binôme. Est-ce qu'ils ont des rôles à l'intérieur ? Il y a bad cop, good cop.
Non, alors évidemment, rien de tout ça n'est conscient, c'est très opportuniste, mais enfin c'est sélectionné de génération en génération et c'est comme ça qu'on en arrive à la conscience un jour. Oui, on s'est aperçu, parce qu'on a modélisé le mouvement de cette horde de requins, pendant une année entière, ils ont porté des capteurs pour savoir quel était leur mouvement, et on s'est aperçu qu'au sein de la horde, il y avait des sous-unités et que tous les jours et toutes les nuits se formaient des binômes, des paires qui partent chasser ensemble, où les rôles ne sont pas définis. L'un est persuadé d'être le profiteur de l'autre.
Mais un profiteur, un rabatteur.
Exactement. Et au moment d'une attaque, forcément, celui qui rate, l'autre récupère.
Après, voilà. Ça ne partage pas.
Et non, la collaboration s'arrête au moment de la prise. Là, on passe dans la pure concurrence.
Laurent Balesta, vous dites des capteurs et même des caméras ou une caméra posée sur un requin. Comment vous avez fait
On a utilisé une technique qui est... une chose assez bizarre qui est connue depuis les années 70, qui est le fait que les requins rentrent en catalepsie, presque en hypnose, quand on arrive à les retourner sur le dos. Voilà. Alors il faut dire, ouais, mais alors comment on les retourne sur le dos ? Mais en fait, quand ils sont comme ça, excités par la chasse, il est très facile de s'approcher d'eux, de les attraper par la queue et de les retourner.
Mais attendez, c'est ce que vous avez fait ?
On a fait ça pendant plusieurs nuits pour pouvoir équiper les 40 requins d'une manière très douce. Moi, je ne voulais pas qu'on les pêche avec des fils, avec des hameçons. D'abord, on ne choisit pas quand on les pêche avec un hameçon. Là, on pouvait choisir un petit, un gros, un mâle, une femelle pour avoir un échantillon représentatif de toute la horde.
Et parmi les découvertes que ces outils technologiques vous ont permis de réaliser, il y a le petit jeu auquel se livrent les requins avec leurs congénères qui sont requins corail, c'est ça ? Qui sont plus petits, qui ont la capacité à faire quoi, Laurent Balesta ?
Alors, ils ont surtout, ce sont les requins corail ou pointe blanche, ou mamaru, comme les appellent les Polynésiens. Ce sont des requins qui ont cette capacité à vraiment rentrer dans le récif, à se faufiler entre les massifs de coraux. Et surtout parce qu'ils ont la capacité, eux, de faire machine arrière ensuite. Okay. Ils s'enfoncent dans un trou de corail et ils peuvent en ressortir en marche arrière. Les requins gris en sont incapables. Donc une proie qui est vraiment cachée sous le corail, ils ne peuvent pas aller la débusquer. Donc ils ont pris l'habitude de suivre les requins corail et quand le requin corail débusque une proie trop grosse pour lui, il saute dessus. Voilà, donc on a eu la démonstration d'une capacité à exploiter une autre espèce.
700 requins dans la nuit, c'est le titre du DVD que vous sortez chez Arte Éditions. Il y a un livre aussi publié chez Andromède Collection, très très beau livre pour vivre vos aventures. On y voit que les mérous, c'est l'une des proies favorites, vous l'avez dit, des requins. Ils se sont adaptés, vous allez nous dire comment, notamment pour pondre au meilleur moment. Récit étonnant à venir sur RTL.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les dents vont sortir comme ça vers l'avant. Et ça, c'est génial parce que avec les dents du dessus et du dessous qui viennent verticalement dans la proie va se retrouver complètement poignardée. Il va balancer très fort la tête de gauche à droite et toutes les dents en série vont agir comme des scies qui vont pouvoir cisailler complètement la proie.
Extrait du documentaire 700 requins dans la nuit, expédition menée par Laurent Balesta, notre invité, documentaire réalisé par Luc Maresco, qui est disponible sur Arte Boutique. Donc si notre discussion vous passionne, vous pouvez vous procurer ce documentaire. Laurent Balesta, on écoutait un extrait qui montre comment le requin utilise sa mâchoire, peut la déformer pour manger ses proies. C'est aussi le résultat de votre travail, ça, grâce aux capteurs, grâce aux caméras, slow motion, etc. Ça permet à des scientifiques, à des chercheurs d'en savoir plus.
Ah oui, il y a quand même, à chaque expédition, avant le défi de plongée, avant la promesse d'image, il y a un enjeu scientifique. Mmh. Et là, ça a été surtout de faire de l'écologie, c'est-à-dire de vraiment avoir des idées sur les quantités. Là, on a pu chiffrer les statistiques de chasse. On a vu que cette chasse en meute a une efficacité de 25% sur ces attaques.
C'est beaucoup.
Et bien, c'est par exemple, comparé à une meute de loup, c'est 14% une meute de loup. Donc, ces requins qu'on nous dit primitifs, finalement, sont plus efficaces. À la nuance près que les loups partagent leur proie. Quand ils ont capturé une proie, il y a une priorité au chef de meute, aux femelles gravides, etc. Là, on a bien vu que 25% de réussite, mais le festin ne se partage pas.
Comment les mérons ont réussi à s'adapter à leurs prédateurs, finalement, les requins? Comment ils font pour protéger leurs petits, pour perpétuer leur espèce?
Génération après génération, ils ont trouvé le bon moment pour pondre. D'abord, c'est des virtuoses de l'esquive, donc ils s'en sortent quand même pas mal toute la nuit durant et pendant plusieurs semaines.
C'est
usant. On les voit au petit matin, d'ailleurs, marqués avec souvent pas mal de blessures dont ils arrivent à se remettre d'une façon remarquable.
Parce qu'on le rappelle, pardon, pour ceux qui nous rejoignent, les mérous viennent à une période particulière de l'année, au mois de juin,
quelques semaines avant la pleine lune.
D'accord.
Et ils attendent le jour de la pleine lune, la nuit de la pleine lune, pour pondre. Alors, à minuit, quand il y a la pleine lune, le fond de la mer est extrêmement lumineux, même à minuit, il y a la pleine lune qui l'éclaire. Mais quand on arrive près de l'aube, la pleine lune est très basse sur l'horizon, ses rayons ne pénètrent plus, et finalement, paradoxalement, c'est la pleine lune, mais il fait tout noir sous l'eau. Et c'est ce moment-là que les mérous utilisent, parce que les requins ont chassé toute la nuit, ils sont épuisés, et juste avant que le jour se lève, dans cette nuit particulière, les mérous vont bondir vers la surface et pondre leurs œufs. Alors les femelles pondent leurs œufs, les mâles essaient de les ensemencer par-dessus. Et au bout de 30 minutes, toute la passe est blanche d'œufs. L'eau devient trouble, le temps que la marée évacue tout ça vers l'océan.
Voilà, et on rappelle, c'est pour ça qu'ils viennent à cet endroit, parce qu'il y a un courant très puissant qui va évacuer leur progéniture.
Permettre à certains d'aller coloniser de nouvelles îles.
Laurent Balesta, il travaille beaucoup les requins, et notamment de nuit. Ça veut dire que le jour, il se repose, il se laisse bercer par les courants?
Oui, alors après, si une opportunité se présente de jour, ils n'hésiteront pas. Mais il y a une sorte d'accord tacite. Le jour, les mérous interagissent, se battent, essaient de conquérir des femelles. Donc il y a une grosse activité chez les mérous le jour. Mais le jour, les requins, eux, sont vraiment dans une phase de repos.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont rangés par groupe, par bande de potes?
Ça, c'est très intéressant. Parce
c'est
que
gang de requins.
On a découvert cette année, à force de travailler sur les résultats, on a eu 1,9 million d'enregistrements de ces déplacements de requins. Et donc ça fait des tableaux Excel gigantesques qu'il faut faire parler. Et une des premières choses qui sort de ce tableau, qui est une nouveauté, c'est que les requins dans le courant, le jour, font comme les oiseaux en migration. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est devant, qui encaisse tout le courant, qui prend tout le flux, et les autres qui se mettent derrière et qui économisent leur énergie. Et régulièrement, le premier est remplacé par le second, etc. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, cette capacité du groupe à économiser son énergie.
Merci beaucoup Laurent Balesta, c'était passionnant. Votre livre 700 requins dans la nuit est donc publié chez Andromède Collection. Et puis il y a ce film qui sort en DVD Blu-ray. Merci encore.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.